Pardon, oui, ça devrait aller.
Bonsoir, Monsieur Bidard. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Vous êtes professeur agrégé de philosophie en classe préparatoire à l'Université Sophia Antipolis de Nice et à l'IEP de Paris, membre du comité de rédaction de la revue Esprit. Spécialiste de philosophie de la religion et des évolutions de l'islam contemporain, vous participez à divers groupes de réflexion et de propositions sur la laïcité auprès du Haut Conseil à l'intégration. Chargé de mission auprès de la DGESCO du ministère de l'Éducation nationale, à partir d'une inspiration philosophique et spirituelle, vous réfléchissez à une adaptation de la tradition religieuse de l'islam aux conditions intellectuelles et matérielles du monde contemporain. C'est ce que nous découvrons dans votre premier livre paru en 2004, intitulé « Un islam pour notre temps ». Vous développez le concept de self-islam en 2006, histoire d'un islam personnel, où il s'agit bien de montrer comment votre philosophie a pris naissance et s'est formée précisément au travers de votre expérience de vie particulière entre deux univers de pensée. D'un côté, l'islam hérité de votre mère convertie à l'islam à travers le soufisme, et de l'autre, la philosophie occidentale que vous étudiez à travers une jeunesse française typique montée à Paris depuis Clermont-Ferrand et arrivée à l'ENS de Fontenay-Saint-Cloud. Vous mettez en évidence la réelle possibilité d'une dimension d'un islam des Lumières qui est tout à fait le contraire d'un islam sans soumission. C'est d'ailleurs le titre de votre ouvrage paru en 2008 et en poche en 2012. L'islam sans soumission pour un existentialisme musulman. Vous approfondissez vos thèmes de prédilection comme celle du devenir spirituel de l'humanité au contact de l'œuvre prodigieuse de Mohamed Iqbal, poète et philosophe musulman, dans votre ouvrage « L'islam face à la mort de Dieu, actualité de Mohamed Iqbal ». Vous vous intéressez ensuite à la question de la sortie de la religion, indépendamment de la question de l'islam, dans votre ouvrage paru en 2012, « Comment sortir de la religion ». Vous n'hésitez pas à vous impliquer dans nombre d'articles de revues et dans le dictionnaire de la laïcité sous la direction de Martin Cerf et Marc Horswitz, en consacrant 7 pages à la rubrique « Islam », mais aussi lors d'interventions dans les médias et dans votre blog personnel, tout à fait intéressant, et je vous y invite, bien entendu. Aujourd'hui, pour le thème de votre conférence, pour une pédagogie de la laïcité, vous allez nous présenter des outils de réflexion et d'action pédagogique afin d'aider le professeur dans ses médiations possibles face aux situations de contestation du principe de laïcité. Je vous laisse la parole maintenant.
Merci beaucoup. Je remercie le professeur Cortès pour son invitation qui m'honore et qui me fait plaisir. Avant de vous parler plus particulièrement la charge de mission qui est la mienne pour le HCI, c'est-à-dire pour le Haut Conseil à l'intégration, et pour la DGESCO, c'est-à-dire la Direction Générale de l'Enseignement Scolaire du ministère de l'Éducation nationale, je voudrais, donc avant de vous parler plus particulièrement de cette mission, de ses objectifs ou de ses finalités, puis de son contenu et puis de ce qui lui a donné naissance, même en amont de tout ça, je voudrais vous dire un petit peu ce qui m'a amené à me poser cette question, à réfléchir moi-même sur cette question de la laïcité. Comme l'a dit Madame Carpentier, je suis devenu, avec les années, un spécialiste des questions relatives à l'islam. Et je m'étonne toujours que dans nos réflexions hexagonales, ça a été le sujet d'ailleurs tout à l'heure d'une intervention, que dans nos réflexions hexagonales, la question de l'islam passe un peu au second plan, c'est-à-dire que, pour le dire rapidement et de façon peut-être un petit peu caricaturale, on fasse comme si, pour discuter de la laïcité, la question de la laïcité aujourd'hui en France, tel que le problème se pose très concrètement, il suffisait d'avoir conscience ou d'avoir une connaissance de l'histoire de la laïcité française, des enjeux de la laïcité française, et sans que la question posée à la laïcité, je dirais par l'islam en particulier, et non seulement par l'islam en particulier, mais par cette situation contemporaine générale, au-delà de la situation française, au-delà du cas français, qui est la situation du retour du religieux, en tout cas de ce que certains intitulent le retour du religieux, on peut discuter, y a-t-il retour du religieux? En tout cas, j'ai le sentiment que nos réflexions sur la laïcité ont un caractère quelque peu hémiplégique, C'est-à-dire que on veut réfléchir sur la laïcité à partir d'une problématique, une problématique spécifiquement française, qui donc ne tient pas suffisamment compte d'une situation qui est une situation de civilisation globale. Aujourd'hui, nous sommes dans une civilisation humaine dans laquelle, à des degrés divers, d'une façon ou d'une autre, se pose la question du statut du religieux, au sens où ce religieux que la modernité occidentale, à partir du XIXe siècle, avait cru pouvoir évacuer en le désignant et en le dédaignant comme une pulsion infantile de l'humanité, eh bien, il se trouve que ce religieux, aujourd'hui, revient. Ce religieux tente de se remanifester, il tente d'acquérir une nouvelle intelligibilité de lui-même, il tente de récupérer dans un certain nombre de sociétés un droit de cité. La question se pose de quel droit de cité on va lui accorder dans les sociétés en question. Bon, eh bien, cette question du retour du religieux, me semble-t-il, n'est pas suffisamment prise en compte, suffisamment explicitée comme l'arrière-plan global, général, et comme tout arrière-plan, la question de fond qui se tapit derrière notre problématique, qui est la problématique française de la laïcité, de l'histoire de la laïcité, etc. Et à l'intérieur de ce retour du religieux, il se trouve que nous, en France, nous sommes sollicités sur cette question, qu'on le veuille ou non. Je crois que ce n'est pas la peine de jouer les vierges effarouchées. Moi, je vous le dis en tant que spécialiste de l'islam, j'ai grandi dans la culture musulmane, c'est l'islam aujourd'hui qui pose un défi à la laïcité. Mais quand je dis ça, en tout cas de mon point de vue, je n'ai pas du tout l'impression de diaboliser l'islam. Je considère qu'au contraire, la vertu de la présence de l'islam en France, c'est de permettre à la société française, à l'intellectualité française aussi, de repenser cette question du rapport entre le religieux et le politique. Hein. Cette question aussi, au-delà du rapport entre le religieux et le politique, la question de la fonction existentielle qu'a assumée le religieux dans les sociétés humaines depuis des millénaires, parce que, tout simplement, eh bien, c'est une question dont on peut avoir l'impression qu'en France, on a arrêté de se la poser. C'est-à-dire, on ne se pose plus aujourd'hui de questions existentielles. On ne se pose que des questions sociologiques. Tout à l'heure, j'entendais M. Vievorka, pour le lapsus, comme tous les lapsus, il est révélateur. Je l'entendais dire que le problème de l'islam devait être conçu selon trois dimensions. Je vous les cite, j'ai pris en note. Les musulmans viennent de milieux populaires. Il y a derrière le passif et tous les dommages collatéraux et lointains de la colonisation et de la décolonisation. Et il y a les territoires perdus de la République. Bon, mais ça, c'est un discours sociologique qui a sa nécessité sur son plan. Effectivement, le problème de l'islam, c'est un problème socio-économique, culturel, ça. Mais c'est aussi à l'arrière-plan, hein, la question qui se repose aujourd'hui à travers le cas islam de ce qu'on a fait dans nos sociétés de cette dimension existentielle. Hein. De ce point de vue-là, alors Madame Carpentier citait mon dernier ouvrage que j'ai intitulé « Comment sortir de la religion ». Pourquoi est-ce que je l'ai intitulé comme ça? Parce que tout simplement, on croit en Occident, en France en particulier, mais en Occident en général, que la question de la sortie de la religion est derrière nous, alors qu'elle n'a jamais été autant devant nous. Elle n'a jamais été autant à repenser qu'aujourd'hui, parce qu'elle se pose dans des termes qui sont tellement nouveaux que tous les concepts par lesquels l'intellectualité occidentale depuis deux siècles pense la sortie de la religion sont périmés. Ils ont atteint leur date de péremption. Quand aujourd'hui on continue dans tout un ensemble de colloques à considérer comme l'alpha et l'oméga de la réflexion sur la sortie de la religion, la réflexion de Marcel Gaucher sur le désenchantement du monde, son grand livre de 1985, je suis désolé, mais c'est périmé. C'est-à-dire que sur la question de la sortie de la religion, nous n'avons qu'une proposition. Cette proposition, c'est justement celle du désenchantement du monde. C'est une proposition que l'Occident n'a cessé de formuler tout au long du XIXe et du XXe siècle, à partir de Max Weber et à partir de Nietzsche. Hein. Cette position est très très simple. Nous vivons dans un monde désenchanté, c'est-à-dire que le religieux soit est liquidé. C'est-à-dire le religieux va s'éteindre de lui-même, hein, on passe à la modernité, on passe à la rationalité, on passe à la science, on passe à la politique. Et la deuxième dimension de cette thèse générale sur le désenchantement du monde, c'est il y a, si le religieux subsiste aujourd'hui, c'est sous la forme d'un transfert. C'est-à-dire on a transféré dans des religions de substitution, qui ont été les religions politiques du XIXe siècle, tout le matériau de sacralité du religieux. Voilà, ça c'est le discours occidental classique. eh bien, on fait comme si on pouvait continuer à discuter à partir de cette vision du monde qui s'est installée, et comme si tous nos débats, qui sont des débats plus relatifs, qui s'inscrivent dans cette problématique générale, pouvaient continuer d'être traités efficacement à l'intérieur de ces cadres de pensée qui, en réalité, aujourd'hui, explosent de toutes parts. Il suffit de voir ce qui se passe dans tout un ensemble de sociétés du monde. Le religieux n'est ni transféré, ni liquidé. Hein ? C'est-à-dire qu'il... alors, est-ce que ça veut dire... Ça, c'est la question de fond. Est-ce que ça veut dire que la question de la sortie de la religion, c'était une lubie occidentale ou une parenthèse occidentale dans un monde qui va revenir aux religieux ? Ou est-ce que il y a là, pour nous, un défi de penser à nouveau ce que j'appelais tout à l'heure la fonction que le religieux a assumée pendant des millénaires dans tout un ensemble de sociétés, mais à de nouveaux frais et dans une nouvelle situation qui est une nouvelle situation existentielle, une nouvelle situation de civilisation qui est la situation ouverte par la modernité. Voilà, donc si vous voulez, quand j'entends les débats sur la laïcité, je suis toujours un petit peu frustré à partir du centre de mon travail, parce qu'il me semble que c'est comme si on était réunis dans une petite pièce, on voit par la fenêtre entrer la trompe d'un éléphant, et on est en train de toucher la trompe de l'éléphant, en train de se demander ce que c'est, hein, sans penser à regarder à l'extérieur et voir que eh bien, nous sommes sur la queue de comète d'un problème qui est en réalité probablement beaucoup plus vaste. À cet égard, dernière chose que je voudrais préciser avant d'entrer dans le vif du sujet, hein, et donc de particulariser, c'est que sur l'islam, il peut être tout à fait intéressant de connaître deux ou trois ouvrages qui traitent justement de cette question alors pas de la laïcité avec le concept lui-même qui serait posé et qui serait pensé, mais de la question de la séparation, au moins de la séparation du politique et du religieux. Le premier ouvrage auquel je pense, c'est un ouvrage célébrissime dans le monde musulman parce qu'il a nourri tout au long du XXe siècle tout un ensemble de controverses, c'est le livre de Ali Abderrazik. Alors, je le prononce à la française, c'est Abderrazik. Le livre est paru aux éditions de la Découverte. Ça s'appelle L'Islam et les fondements du pouvoir. Et donc Abderrazik, qui est un halim, c'est-à-dire un savant de El Azhar, on est en 1925, met les pieds dans le plat et dit non, le prophète Mohammed, contrairement à tout ce que la mytho-histoire de l'islam a construit autour de lui, contrairement aux personnages que la tradition a mythifié, eh bien, n'était pas prêtre et roi. Il n'était pas prêtre et roi, il était prêtre, mais ensuite, pour des nécessités politiques, eh bien, on lui a donné cette dimension de chef politique, justement, et on a mythifié comme tel la communauté de Médine qu'il aurait organisée politiquement, selon des lois qui auraient été, à partir de là, inséparablement religieuses et politiques. Alors ça, c'est quelque chose qui est très très intéressant. Donc ça, c'est Abderrazik. Plus près de nous, il y a un chercheur actuellement en France qui peut nous informer très utilement du rapport historique entre le pouvoir religieux et le pouvoir politique en islam. C'est un chercheur qui s'appelle Makram Abbes, qui est un philosophe de formation, spécialiste de la civilisation islamique. Il a enseigné pendant un temps à l'ENS de Lyon. Il a écrit un livre au PUF en 2009 dont le titre est « Islam et politique à l'âge classique ». Vraiment, je vous le recommande, c'est un modèle de problématisation philosophique et de profondeur de champ appliqué à la profondeur du champ historique, c'est magistral. Voilà. Et puis, évidemment, sur ces questions, après je m'arrête, la grande référence, si je prends le temps de vous donner ces références, c'est par rapport à ce que je disais au départ, c'est-à-dire que pour moi, il faut tenir les deux fils. C'est-à-dire, si on veut réfléchir sur la laïcité, si la question de la laïcité en France aujourd'hui est posée notamment à partir du cas islam, pour le meilleur et pour le pire, je vous le concède, eh bien, il s'agit quand même de savoir ce qu'il en est du côté musulman. C'est-à-dire, du côté musulman, on n'a pas affaire simplement à quelques civilisations apeurées, reléguées territorialement, discriminées, qui sont très très malheureuses parce qu'elles sont dans une situation sociale d'où il faut les sauver. Ce sont des néocolonisés de l'intérieur. Là, si vous voulez, je vous fais le discours sociologique de base. Il y a derrière ces gens-là toute une profondeur de civilisation. Toute une profondeur de civilisation, et si on ne sait pas qui ils sont, si on ne comprend pas que le monde musulman tout entier est adossé à ces populations, que dans le monde musulman il se passe d'ailleurs tout un ensemble de choses, dont les printemps arabes ont essayé de nous avertir, mais on est assez autiste dans ce cas-là, eh bien je crois qu'on ne réfléchit qu'à moitié, on peut réfléchir que de façon borgne. Et donc la troisième référence, qui est elle aussi magistrale, mais elle a acquis des lettres de noblesse, c'est l'œuvre de Mohamed Harkoun. Alors, je vous invite très cordialement à lire l'œuvre de ce très grand professeur de civilisation islamique qui a été professeur à la Sorbonne Nouvelle, à Paris 3, de 1972 à 1992, pendant une vingtaine d'années, et qui a écrit des ouvrages remarquables, son classique parmi les classiques. Il en a écrit d'autres ensuite chez Vrin. C'était un livre qui s'appelait « Pour une critique de la raison islamique ». Voilà. Donc là, c'est vraiment, pour moi, ce sont des connaissances absolument nécessaires. Absolument nécessaires. Il est tout à fait indispensable de tenir les deux fils. Je m'arrête sur cette première question. Je vais parler donc un petit peu de cette charge de mission. Maintenant que j'ai un peu expliqué le contexte dans lequel j'entendais la conduire et à partir de quoi. C'est une charge de mission que je remplis, dont l'intitulé est « Pédagogie de la laïcité ». Pour le Haut Conseil à l'intégration et sur une recommandation du Haut Conseil à l'intégration. Le Haut Conseil à l'intégration a fait cette recommandation auprès de la DGESCO, qui a accepté, qui a vu tout l'intérêt de ce travail. Alors, de quoi s'agit-il? Tout est dans l'intitulé. C'est une pédagogie de la laïcité. Nous sommes partis du constat suivant. Je dirais presque que nous sommes partis de la déploration suivante. Nous sommes partis du constat que la laïcité dans l'esprit des élèves, que la laïcité dans l'esprit, hélas, peut-être aussi des professeurs et des différents personnels de l'éducation nationale, risquait, et sans parler de la laïcité dans l'esprit de l'ensemble des Français aujourd'hui, risquait de devenir davantage un slogan qu'un mot chargé de sens. C'est-à-dire que l'invitation à être laïque, l'invitation à respecter le principe de laïcité, risquait de tourner à l'injonction dogmatique, si, en plus de ce rappel du principe de laïcité, en plus de l'injonction à respecter toutes les lois et toutes les règles qui sont inhérentes à ce principe de laïcité, si en plus donc on ne faisait pas tout un travail de pédagogie, c'est-à-dire de réexplication, de remise à disposition de tous, à commencer donc par les personnels de l'éducation nationale et les élèves, donc de remise à disposition de tous du sens, des enjeux et de la valeur du principe de laïcité. Voilà. Donc si vous voulez, notre mot d'ordre a été le suivant, expliquer pour faire respecter. Expliquer pour faire respecter. Vous vous souvenez sans doute de tout un ensemble de polémiques qui ont eu lieu à propos de la fameuse loi du 15 mars 2004. La loi qui interdisait les signes manifestant une appartenance religieuse ostensible, donc interdisant à l'école les signes manifestant une appartenance religieuse ostensible. Cette loi a eu, hélas, mauvaise réputation. Mauvaise réputation au sens où elle a, dans l'esprit de certains, imposé ou insinué l'idée que la laïcité était une laïcité, que la laïcité, presque par définition, était là pour poser des interdits. Pour poser des interdits et donc pour stigmatiser. Pour stigmatiser et qu'à partir de là, la laïcité, peut-être, on pouvait lui imputer de ne pas respecter tout à fait, voire même de contredire, le principe de liberté de conscience, le principe de liberté de religieuse, le principe de liberté d'expression, etc. Et ce que nous avons voulu faire, c'est de montrer simplement qu'une loi comme celle-ci, eh bien, en réalité, n'a pas ce caractère de stigmatisation. Mais encore fallait-il le dire. Et donc, nous avons essayé de le dire. C'est-à-dire que nous avons essayé de montrer quel pouvait être le bien fondé et la valeur d'une restriction comme celle-ci de la manifestation de l'appartenance religieuse à l'intérieur de l'enceinte scolaire. Là, par exemple, il s'est agi pour moi, de façon extrêmement concrète, rappeler un certain nombre de passages de la loi. En l'occurrence, si vous voulez bien, je vais vous en citer deux ou trois qui montrent que, au-delà de l'interdit, ou plus exactement dans la fixation d'une limite, il y a quelque chose qui n'est pas négatif, mais au contraire qui est positif.